Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Billy Van Lutumba.
Nous parlons en début de ce journal de l'analyse d'un observateur du processus électoral en RDC, professeur Bob Kabamba, qui parle d'incohérence du calendrier électoral. Une analyse balancée du revers de la main par le directeur de communication de la CENI, attestant qu'il s'agit d'une contrainte reprise dans la loi électorale. Jean-Charles Okoto, président du conseil d'administration de l'AMIBA, invite l'homme travailleur de la minière de Bakwanga à changer d'attitude et comportement pour un bon accompagnement de la relance de cette société. Relance bien entendu liée à des préalables majeurs, notamment l'énergie électrique et la connexion de la province, parfois par voie fluviale à travers le port de Ndomba. Gédéon Samba, directeur du programme national de la santé mentale en RDC, et c'est lui que nous recevons comme invité. C'est pour découvrir avec lui l'état des lieux établi pour ce qui concerne la santé mentale en RDC. Tout de suite, nous vous déroulons les autres aspects de l'actualité congolaise. Fidèles auditeurs, bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après la clôture de l'opération de réception et traitement des candidatures à l'élection présidentielle de 2023, professeur Bob Kabamba, enseignant à l'Université de Liège en Belgique, un des observateurs du processus en cours, reste sceptique quant à la suite du calendrier électoral. Il estime que ce calendrier a une incohérence étant donné que la liste définitive des candidats sera publiée le 18 novembre, soit la veille du début de la campagne électorale. Intervenant dans l'émission Dialogue entre Congolais lundi sur Radio Okapi présentée par Kéline Kouté, ce politologue estime que cela risque de perturber la préparation de la campagne électorale des candidats qui se verraient écartés, mais aussi mettraient à mal les éventuelles stratégies de l'opposition. On écoute le professeur Bob Kabamba dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Quand je compare un peu par rapport à d'autres scrutins, on se rend bien compte que dans le contexte 2006, 2011, 2018, les listes définitives étaient toujours publiées, plus ou moins, je fais une moyenne, 2 mois et demi avant les échéances. Lorsqu'on publie la liste définitive des candidats présidents le 18 novembre, la veille de la début de la campagne électorale, comment voulez-vous que les gens puissent faire campagne électorale tout en sachant pas s'ils seront retenus sur la liste de manière définitive ou pas? Alors si un candidat aujourd'hui est sur la liste et qui va commencer à faire commande des t-shirts, tout ce que nous connaissons, que nous savons toujours ce qui se passe par rapport à la campagne électorale, et qu'on arrive à la veille, début de la campagne, le candidat est déclaré non recevable ou bien retenu sur la liste. Et quelle sera sa réaction? Ceux qui sont à la manœuvre, ceux qui sont au pouvoir, pourront sans ambiguïté utiliser les moyens de l'État pour pouvoir faire campagne, tandis que les autres ne pourront pas faire campagne tant qu'ils n'auront pas la liste définitive. Et donc là, c'est véritablement une espèce d'inégalité qui est entre les candidats, qui aura des répercussions même sur la dynamique que l'opposition pourrait lancer, c'est-à-dire essayer de pouvoir arriver à avoir un candidat commun.
En réaction, le directeur de communication de la CENI affirme qu'il s'agit d'une contrainte reprise dans la loi électorale. La dite loi déclare que la liste définitive des candidats présidents de la République intervient 24 heures avant le début de la campagne électorale, rapporte Jean-Baptiste Itipo. Toutefois, pour faciliter la tâche aux candidats afin de bien préparer leur campagne et ainsi contourner ces difficultés, les numéros qui seront repris au regard du nom de chaque candidat sur la liste provisoire seront considérés comme définitifs, affirme la CENI. Jean-Baptiste Itipo s'est confié à Grace Hamzati.
L'article 110 oblige la CENI à publier la liste définitive des candidats 24 heures avant la campagne électorale. Et c'est, la CENI a juste appliqué cela. Et devant cette difficulté, et dans les soucis, n'est-ce pas, de faciliter la tâche aux différents candidats, la CENI a dit dans son communiqué de presse que lorsqu'elle publiera la liste provisoire, les numéros qui seront à côté du nom de chaque candidat seront considérés comme étant des numéros définitif. Ceci, c'est pour permettre, n'est-ce pas, aux différents candidats de bien élaborer leur matériel de campagne. Mais si jamais à tout hasard, au niveau du contentieux électoral, un candidat arrivait, n'est-ce pas, à tomber, il tombera avec son numéro. Et les candidats qui restent avec son numéro.
N'est-ce pas cela risque de créer une frustration, par exemple, à un candidat qui avait déjà préparé sa campagne électorale et qui se voit écarté la veille de cet événement?
Non, ou bien nous voulons la loi ou nous ne la voulons pas. Celui qui est sûr de son dossier n'a pas, n'est-ce pas, à craindre. Nous espérons que tout se déroulera très bien.
Actualité dans la province du Kasaï oriental, où il y a une remise et reprise, selon dit, entre le comité entrant et sortant de la société minière de Bakwanga Miba. Cette cérémonie s'est déroulée dans un climat bon enfant devant les représentants des ministères des Finances et du Portefeuille. Pour relancer cette entreprise minière, le président du conseil d'administration de la Miba parle de trois priorités. Jean-Charles Okoto, président du conseil d'administration de la Miba, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
À ma modeste personne, et je tiens à relever l'AMIBA pour que la production reprenne un de ces quatre mandats avec le concours du gouvernement. Le problème de budget se pose, mais le problème le plus capital, comme je l'ai dit, pour respecter le mot du chef de l'État, d'abord l'homme de l'AMIBA. Vous pouvez envoyer des engins, vous pouvez envoyer des moyens, mais si l'homme n'a pas changé, si l'homme n'est pas discipliné, vous verrez à l'échec. Dans notre stratégie, parce que je ne m'appartiens pas, avec la petite expérience que nous avons, d'abord, on ne peut pas augmenter la production ou commencer à produire sans l'énergie. Nous devons remettre l'énergie au Kasaï oriental, à Bujima plus précisément. Les stratégies sont déjà là. Il y a eu déjà des avancées. Et de deux, offrir maintenant la voie fluviale, c'est-à-dire au niveau de le port de Ndomba. Là, c'est l'une des priorités. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le coût de transport par avion de tout le matériel pour pouvoir reconstruire et augmenter la production de la MIBA, combien ça va nous coûter. Donc d'abord, l'énergie, la voie fluviale et le redéveloppement de l'outil de production. Voilà les trois problèmes majeurs que nous allons résoudre.
Rendons-nous à présent au Congo central, où le ministre provincial de l'économie s'insurge contre la spéculation autour du prix du ciment gris qui s'observe ce jour-ci dans la province. Le prix d'un sac est passé de 22 500 à 26 000 francs congolais à cause, selon les opérateurs économiques, de la rupture du stock qu'occasionne le mouvement de grève des routiers observé du 18 au 28 septembre dernier. Alors qu'au niveau des cimenteries basées au Congo central, le prix n'a pas bougé, la production est normale. Le ministre de l'économie, Roger Nimi, indique que rien ne peut justifier l'augmentation du prix sur le marché du ciment gris dans la province. Il met en garde tous les vendeurs de cette denrée qui usent de la rétention des marchandises pour hausser les prix. Suivez le ministre provincial de l'économie du Congo central dans ses propos recueillis par Nana Plurichemambo.
Mais les opérateurs économiques ont profité de la grève des transporteurs. Et cette grève-là fait qu'il y ait un peu carence de stocks sur le terrain. Et pendant que la grève venait de prendre effet depuis la semaine passée, on a commencé même à approvisionner. Ils ont profité de cette grève-là. Ils ont haussé un peu les prix du ciment. Mais moi, je ne vais même pas accepter avec les ciments qui se produisent ici au Congo central, voire au augmenter le prix du ciment. Et quand ils ont augmenté, le ciment était allé même jusqu'à 30 000 francs congolais. Ils sont revenus à 26 000. Et l'habitude que les opérateurs ont acquise, c'est quand il y a spéculation des prix, ils haussent les prix et c'est difficile de les voir revenir au prix initial, même s'il y a maintenant un stock de ciment. On a ravitaillé, mais ils veulent rester à 24 000 francs congolais. Et si nous sommes 10, ils iront à 25 000, à 26 000 francs congolais et jusqu'à 30 000 francs congolais. À l'occasion de rien, le ciment a gardé son prix au niveau de l'usine. Nous sommes venus d'être en contact avec tous les producteurs au niveau des usines. Tout est ok au niveau des usines. Il n'y a rien qui peut justifier l'augmentation des prix sur le marché du ciment. Aucun opérateur économique ne me convaincra de l'augmentation de ces prix des sacs de ciment. Je n'accepterai jamais. Si vous augmentez, je fais sceller votre magasin juste parce que vous allez revoir le prix à la baisse.
Actualité dans le Nord Kivu, une vingtaine de véhicules transportant des marchandises et des passagers bloqués depuis une semaine en Touro et à Kichanga dans le groupement de Bachali Mokoto. Nous sommes dans le territoire de Masisi où ont été libérés et ont poursuivi leur voyage jusqu'à hier lundi vers la ville de Goma. Selon la coordination territoriale de la société civile, le convoi de ces véhicules a finalement pu être libéré après les affrontements qui ont opposé tout ce week-end les combattants du groupe armé communément appelé Wazalendo aux rebelles du M23 sur cet axe. C'est comme l'explique le premier vice-président de la coordination territoriale de la société civile, Faustin Cassolet, joint par Gabriel Ouaménia.
Ok. Messieurs les journalistes, je vais vous dire que la situation est relativement calme. C'est ça que vers Kichanga après la reprise de cette entité par Novaya Wazalendo. Et en titre exemplatif, je veux vous dire qu'il y a eu des véhicules qui étaient arrêtés au niveau de Kichanga lors des affrontements. Mais ce qui témoigne la calmie qui règne, les véhicules sont parvenus à traverser à partir d'hier lundi et les véhicules ont déchargé leurs marchandises au niveau de Goma.
Vous estimez combien ces véhicules?
En tout cas, c'était aux environs de 20 tonnes de véhicules, des grands camions fousseaux qui transportaient des planches, des braises, même des haricots et consorts.
Faustin Kassolé précise que la situation humanitaire reste précaire dans la région de Kichanga et ses environs. Il plaide pour une assistance humanitaire en faveur des milliers de familles déplacées dans le territoire de Masisi. Toujours dans la même province, au lendemain du prononcé des condamnations des adeptes de la secte de la foi naturelle judaïque messianique pour les nations par le tribunal militaire, plusieurs réactions ont été enregistrées. C'est notamment celle d'un acteur politique local, Espoir Ngaloukié, ainsi que celle d'une organisation des droits humains ULPA, Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs. D'après leur déclaration, la population de Goma et les familles des victimes sont déçues de voir que les victimes de ce massacre ont été condamnées au même titre que leurs bourreaux au lieu d'être acquittées. Écoutons Espoir Ngaloukié.
Pendant que toute la ville de Goma s'attendait à la libération des victimes du carnage qui était aux arrêts depuis le 30 août, nous venons de constater avec regret et amertume la condamnation d'Ephraim Bissimwa et ses compagnons de lutte, de Wazalendo, qui viennent d'être victimes de l'injustice qui a d'être utilisée malheureusement au détriment de la population congolaise. La justice qui est au service de la nation, malheureusement, cette justice vient d'être rendue contre le peuple congolais et contre les victimes. Les victimes d'hier sont malheureusement considérées comme les bourreaux. Les victimes du carnage sont considérés au même titre que les bourreaux, au même titre que ceux qui ont exécuté. Et malheureusement, tous ceux qui étaient dans cette opération de triste mémoire n'ont jamais été condamnés, notamment le gouverneur Constant Dima. Nous attendons à ce que les avocats puissent aller en appel contre cette injustice, contre ces jugements qui ne répondent pas aux attentes de la population.
À Ituri, pénurie d'eau potable depuis environ un mois dans la chefferie de Babilaba Bombi qui compte plus de 300 000 habitants dont des déplacés de guerre. Selon des sources locales, seuls 3 puits aménagés sont opérationnels sur une centaine qui ont été détruits. Conséquence, plusieurs cas de maladies hydriques telles que la diarrhée et la fièvre typhoïde sont enregistrés dans cette entité enclavée, affirme le médecin chef de zone de santé, Ezekiel Mouzalia.
D'après des sources locales, les zones les plus touchées sont les localités de Luemba, Teturi et Makumo où sont concentrées des centaines de familles déplacées qui ont fui les atrocités des groupes armés dans le territoire de Mambasa. Chanito Mayao, président du Parlement des jeunes de la chefferie de Babilaba Bombi, indique que ses habitants éprouvent des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. La plupart des puits d'eau aménagés depuis 2006 ne sont plus opérationnels et n'arrivent plus à couvrir les besoins de la population estimée à environ 300 000 habitants.
Il n'y a pas d'eau potable. Il y a celle-là qui se ravita et dans des sources, pendant la pluie, les sources ne sont pas bien protégées. Ça crée toujours des dégâts. Comme il n'y a pas une autre eau qu'on pourrait prendre, on est obligé toujours de consommer de cette manière.
Le médecin chef des zones de santé de Mandima dit que plusieurs maladies d'origine hydrique, comme la diarrhée, la fièvre typhoïde, sont déjà notifiées dans la communauté. Job Bakwata.
Une zone de santé sinistrée avec beaucoup de mouvements de population. Nous avons les cas de fièvre typhoïde, le chiffre est en hausse. Nous avons les cas de diarrhée au niveau de différents partenaires. Aménager ce qui existe et pourquoi ne pas faire des adductions d'eau dans les villages de forte agglomération.
Au moins 15 aires de santé sur les 18 que compte cette chefferie affectée par cette pénurie d'eau éprouvent également des difficultés pour la prise en charge des maladies. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, les déplacés du conflit communautaire Mbolé-Lengola hébergés aussi de la paroisse Sainte-Marthe de Lubunga plaident pour une assistance humanitaire de la part du gouvernement et de ses partenaires. Dans une déclaration faite à la presse hier, ils disent être abandonnés à leur triste sort. En conséquence, plusieurs cas de maladies dont la malnutrition des enfants sont signalés. 6 d'entre eux sont d'ailleurs décédés au cours de ces 2 dernières semaines, rapporte Jean Bekapa, leur porte-parole. Ces propos ont été recueillis par Jacques Mokonkole.
Les déplacés de Lubunga ne bénéficient aucune aide de divers partenaires humanitaires. Jusqu'à ce jour, nous sommes oubliés à tout. Ce désordre organisé par les inciviques, nous avions fait une gymnastique de quitter nos résidences habituelles et se retrouver tous à la paroisse Saint-Marthe de Lubunga où nous avons trouvé une maison d'accueil à travers notre bourgmestre, là où nous sommes logés, un bon nombre et d'autres restent aux maisons de leurs frères Kaloukoussa ainsi que dans les églises. Car nous avons perdu nos résidences habituelles, incendiées par les inciviques. Nous perdons les moyens matériels et financiers, également la part de nos personnes humaines. Nous, les déplacés de la commune Lubunga, nous demandons aux personnes de bonne volonté, la société civile, les organisations non gouvernementales, de nous assister car ce fléau engendre dans nos foyers de diverses maladies liées au manque de prise en charge adéquate.
Actualité internationale.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est confrontée à l'un des moments les plus difficiles de son histoire depuis de 70 ans, alors que les migrants records coïncident avec un manque de financement et un contrôle strict aux frontières. C'est ce qu'a fait remarquer Filippo Grandi, le haut commissaire du HCR lundi à Genève lors du comité exécutif. Le HCR est confronté à un manque de financement de 650 millions de dollars cette année et les perspectives pour 2024 sont encore plus inquiétantes. Quant à l'ambition de la Grande-Bretagne d'expulser des migrants vers le Rwanda, le HCR a exprimé des graves préoccupations, soulignant que les composantes d'un système d'asile accessible, fiable, juste et efficace fait défaut au Rwanda. Pour sa part, l'ONG Human Rights Watch a accusé mardi les autorités rwandaises d'être responsables des meurtres, passages à tabac et enlèvements des dissidents à l'étranger et appelle la communauté internationale à lutter contre cette répression extraterritoriale. Contactée par l'AFP, la porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo a démenti ces accusations, affirmant que Human Rights Watch continue de présenter une image déformée du Rwanda qui n'existe que dans leur imagination.
L'invité.
Le monde commémore chaque 10 octobre la Journée internationale de la santé mentale. Quel est l'état des lieux de cette maladie ici en RDC et qu'est-ce qui est fait pour aider les gens qui souffrent de cette pathologie? Pour en parler, nous recevons Gédéon Samba, directeur du programme national de la santé mentale en RDC. Il s'entretient avec Babel Pongo-Massimango.
Docteur Samba, bonjour.
Bonjour Madame Babel.
Et docteur, quand on parle de la santé mentale aujourd'hui en République démocratique du Congo, à quoi cela ressemble?
La santé mentale, c'est un ancien concept, selon l'OMS, qui veut dire tout simplement qu'un état de bien-être qui permet à l'individu de concrétiser son potentiel, de résister ou faire face aux difficultés ou aux tensions normales de la vie, de travailler avec succès et d'être productif pour sa communauté. Si on remplit ces quatre conditions, on peut se dire qu'on est en bonne santé mentale.
Et en RDC, comment la situation se présente?
Le 22 septembre, j'ai totalisé une année à la tête du Programme national de santé mentale qui a été créé depuis 2001. Dans les années passées, il y a eu des avancées, sauf que les quelques années passées aussi de recul par rapport à la santé mentale. La pandémie COVID-19 a été révélatrice de la place de choix qu'occupe la santé mentale dans le monde. Malheureusement, dans notre pays, on a connu des reculs, on est conscient, c'est pour cela. En très peu de temps, on s'active pour rattraper les retards, promouvoir la santé mentale. Parce que la situation est telle qu'aujourd'hui, selon des études des années passées de l'OMS, près d'un quart de la population de la RDC présente des problèmes de santé mentale, mais cela à des degrés différents. C'est-à-dire, nombre d'entre nous, nous sommes très concernés par des problèmes de santé mentale. Tandis que l'offre de soins de santé mentale est très faible, estimée à 5%. Voilà les difficultés. Et maintenant, il faut multiplier les efforts. Nous sommes en train d'élaborer la stratégie nationale multisectorielle de santé mentale. L'atelier préparatoire a eu lieu en août. Parce que la santé mentale est transversale et concerne tous les domaines de la vie, tous les secteurs de la vie, tous les ministères. Nous sommes aussi en train, d'ici l'année prochaine, de projeter une récente étude dans l'évaluation situationnelle de la santé mentale à la République démocratique du Congo.
Docteur, vous avez parlé des avancées et également des reculs. On peut connaître quelques avancées qui ont été réalisées et en termes de recul, au fait, qu'est-ce que vous pouvez nous citer par exemple?
Et la RDC, il est parmi les premiers pays d'Afrique, voire même du monde, qui ont mis en place le programme national de santé mentale. Et dès 2001, le programme était très opérationnel. Il a eu à produire des documents normatifs, des documents qui visaient l'intégration des soins de santé mentale dans les systèmes de santé, c'est-à-dire dans les soins de santé primaires. C'est-à-dire que ces soins devaient être disponibles au niveau communautaire, au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux généraux de la République et puis au niveau des centres spécialisés. Parce que on a trop médicalisé. Alors, ça a été fait en son temps avec des documents à l'appui et l'intégration de ces soins a été lancée depuis 2005. Des années 2005 jusqu'à vers 2012, il y a eu quand même des avancées. On a par exemple la province du Sud Kivu, qui est comme province modèle, qui a fait beaucoup d'avancées en santé. Ces soins-là sont quand même disponibles dans les structures sanitaires. Mais il y a eu des reculs parce que la santé mentale a été fortement médicalisée au pays. Tout le monde croit que ne peut s'occuper de problèmes de santé mentale, ce n'est que le CNPP. Or, le CNPP, c'est l'échelon final. C'est l'échelon supérieur où on doit référer des cas graves. Mais il y a des cas simples qui pouvaient être soignés au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux. Donc, il faut à différents niveaux, un paquet soit redéfini. Même au niveau communautaire, au niveau des acteurs communautaires, que nous appelons des relais communautaires, il peut offrir des soins en termes de soutien psychosocial, en termes de soins de santé mentale communautaire. Donc, il faut décentraliser ces soins à différents niveaux et les rendre disponibles partout, pas seulement au niveau des hôpitaux hautement spécialisés.
Merci, Dr. Samba, pour avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, Madame Babel.
À vos auditeurs de Radio Capi, nous disons aussi merci d'avoir suivi cette édition de journal sur Radio Capi.